Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, dernière partie de notre épisode s'intéressant à l'ancien Premier ministre travailliste Bob Hawke. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la relation très friconde qu'il a eue avec son numéro 2, le ministre des Finances Paul Keating, qui plus tard va finir par devenir son rival. Nous verrons aussi dans cet épisode quelles traces a laissé Bob Hawke dans la politique australienne, mais aussi les combats qu'il a continué à mener après avoir quitté justement l'Assemblée australienne. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors, on l'a dit, Bob Hawke, il a mené son parti à la victoire au final 4 fois d'affilée. Peu d'autres politiciens en Australie ont réussi un tel exploit. Et l'une des recettes de succès, vous en avez dit un mot tout à l'heure, c'est le fait qu'il formait un duo avec son ministre des Finances, Paul Keating, qui va finir plus tard par l'écarter du pouvoir. Mais ce duo, il a fonctionné particulièrement bien, et pourtant, ce sont deux hommes qui sont assez différents. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir votre avis, parce que juste en regardant leurs photos, j'aurais plutôt imaginé le contraire. Mais donc, on a d'un côté Bob Hawke, voilà, fils de prêcheur. Son oncle était une figure politique d'Australie occidentale. Il a étudié à Oxford, donc vraiment l'élite, quoi. Et de l'autre côté, on a Paul Keating qui, me semble-t-il, a arrêté ses études au lycée, alors que physiquement, on aurait plutôt tendance à penser que l'homme issu du peuple, c'est Bob Hawke. Alors, c'est peut-être toutes ces bières qu'il a bues au cours de sa vie qui ont conduit à ce résultat. Et Paul Keating a plutôt le physique d'un banquier d'affaires, quoi. Enfin, bref, tout ça pour dire que ça va finir mal, mais ils vont très bien s'entendre pendant une dizaine d'années, alors que sociologiquement, ils sont complètement différents. Comment ça se fait ?
Et je ne peux pas entrer dans la psychologie, comment dirais-je, de ces deux hommes. C'est vrai que ça a fonctionné du tonnerre et que pendant des années, ils se tenaient l'un l'autre. Si vous voulez, ils ont contribué vraiment à leur succès mutuel. Mais peut-être que quand on est dans l'élite, on n'a pas besoin de forcer le trait. Keating, très tôt, je crois qu'il s'achète une Jaguar assez tôt, une voiture de sport un peu flashy avec ses premiers salaires. C'est un grand collectionneur d'antiquités. C'est quelqu'un qui aime l'opéra, le théâtre, les belles lettres, les beaux-arts, etc. Bob Hawke, qui pourtant sociologiquement était plus proche de ce milieu-là, lui est à l'aise au pub. C'est tout à fait paradoxal. Ces deux hommes s'entendent très bien pendant un certain nombre d'années. Keating est un peu le jeune loup, si vous voulez, de l'époque. On le sait destiné à un grand avenir politique, parce que effectivement, s'il donne plutôt l'allure d'un banquier d'affaires, c'est un orateur absolument farouche, vraiment farouche, et le donneur à certains égards, il n'a pas perdu de sa verve. Et donc, c'est un peu le chien d'attaque, si vous voulez, du gouvernement Hawke. Quand il y a un souci, on envoie Keating et ça va passer. Et c'est vrai que Keating est assez critiqué pour cette personnalité un peu froide, un peu hautaine. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des caricatures de lui en étudiant ça dans les années 90, où on le dépeint comme Louis XIV ou Louis XVI. Il est caricaturé comme un roi de France, ce qui n'est pas une très bonne chose dans le contexte australien. Alors que Hawke était vraiment l'homme du peuple. Bon, les années avancent et Keating, il a aussi des ambitions personnelles. Dans la quatrième élection, ça fait déjà 3 que Bob Hawke a gagné, et en 90, Keating dit « Bon, écoute, je te suis, ma condition, c'est que tu passes les rênes, parce que tu vas pas rester Premier ministre éternellement, parce que ta cote de popularité commence à décroître, et puis parce que tu arrives à avoir un certain âge et que ce serait bien de renouveler le sang du Parti travailliste. » C'est qu'il a le choix en termes de mécanique ou d'arithmétique politique. Et il y a ce qui s'appelle l'accord de Kirribilli, où les deux hommes se rencontrent en disant « Bon, je te soutiens pour ta dernière élection en 90, et puis après tu passes les rênes. » Bien. Sauf que Keating est pressé après l'élection de devenir Premier ministre, que ça agace passablement Bob Hawke, et que Bob Hawke lui dit, bah, je vais te passer les rênes, mais on n'a pas dit vraiment quand, donc je vais quand même rester au pouvoir. Et ça énerve Keating, qui en fait bah, le défait progressivement de ses fonctions via un vote qui est organisé au sein du Parti travailliste. Et puis Keating récupère donc le mandat de Premier ministre et sera réélu lors de l'élection suivante et devient Premier ministre jusqu'en 1996. Donc c'est quand même assez une longue période de gauche en Australie entre 1983 et 1996 avec deux hommes clés, Bob Hawke puis Paul Keating.
Un dernier mot sur Bob Hawke, qui donc va renoncer à la vie politique en 92. En tout cas, c'est cette époque-là qu'il va quitter son poste de député, mais il va continuer jusqu'à la fin de sa vie à défendre un certain nombre de causes, notamment l'établissement d'une république en Australie. D'ailleurs, on en avait parlé dans un précédent épisode. Il y a une référence fausse dans la série The Crown sur Netflix, qui imagine un échange entre lui et le prince Charles, et qui en gros pour résumer très vite, Bob Hawke estime que sa bataille pour la République est perdue parce que Lady Di est beaucoup beaucoup trop populaire lorsqu'il visite l'Australie en 1985. Mais enfin, il l'a défendue notamment pour le référendum qui a eu lieu en 99, qui a échoué. Il est aussi un grand défenseur du droit à l'euthanasie. Donc, est-ce que, en gros, d'une certaine manière, il va continuer à utiliser cette popularité qu'il a auprès de la population pour défendre les causes qui lui sont chères?
Oui, complètement. Complètement. Parce que, à mesure des années, il est devenu un peu une figure tutélaire, pas totalement apolitique, hein, évidemment, puisqu'il est du Parti travailliste et qu'il l'a représenté pendant assez longtemps, mais c'est quelqu'un qu'on a vu ériger un peu au-dessus des partis, un sage, si vous voulez. Et quand Bob Hawke parle d'environnement, quand Bob Hawke parle d'euthanasie, de sujets de société, on l'écoute et on lui fait confiance parce que les Australiens de gauche comme de droite savent que ce qui le définit, c'est sa fibre humaine. Par exemple, on l'a pas mentionné, mais en 89, quand il y a Tiananmen, il y avait pas énormément d'étudiants chinois en Australie. Bob Hawke dit, bah, en fait, alors qu'il est en train de travailler pour restaurer, enfin, pour faire avancer les relations avec la Chine, dit, bah, en fait, ça, moi, je peux pas tolérer ça. Donc, j'offre l'asile politique à tout étudiant chinois qui le voudrait dans mon pays. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la défense des personnes d'origine juive dans l'Empire soviétique. C'est quelqu'un qui s'est battu contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui a été reconnu d'ailleurs hein, par Nelson Mandela comme quelqu'un qui a joué un rôle important. Bob Hawke, il a toujours voulu défendre ceux qui avaient peu ou ceux qui n'avaient pas, et le faire dans une certaine humanité. C'est vrai que ça contraste avec son alcoolisme, ça contraste avec le fait que c'était un coureur de jupons notoire, mais là-dessus, on a laissé un héritage. Et de ce point de vue-là, vous avez rappelé enfin, son républicanisme. C'est quelqu'un qui, effectivement, aurait préféré que l'Australie devienne une république et se prenne totalement en charge. Par ailleurs, vis-à-vis de l'euthanasie, il a toujours pensé qu'en fait les gouvernements n'agissaient pas assez rapidement pour permettre une fin digne à ceux qui la souhaiteraient. Et à la fin de sa vie, hein, c'est quelqu'un qu'on a entendu sur les plateaux, dans les journaux, de façon beaucoup moins virulente que Paul Keating qui s'y livre encore, parce que Bob Hawke avait aussi cette image de blagueur. C'est quelqu'un qui aimait faire rire, détendre l'atmosphère. Et vous avez tout un tas de ceux qui seraient intéressés de blagues qu'il raconte à la télévision alors qu'il a plus de 80 ans. C'est le genre de personnalité qu'il était.
Je le disais au tout début de l'émission, et c'est un petit peu ce que vous venez de confirmer, il reste très populaire en Australie. Et ce que je me demandais, vous avez un petit peu répondu à la question, c'est si c'est dû uniquement à sa personnalité, à ce côté homme du peuple qui aime bien faire une bonne blague et qui n'a pas trop de problèmes à boire des coups avec des gens du peuple, etc., etc. Ou est-ce que c'est aussi parce qu'on l'associe à une période dans l'histoire de l'Australie, donc en gros les années 80 et le début des années 90, où le pays allait dans l'ensemble plutôt bien et que c'était une période assez heureuse pour l'Australie?
C'est vrai, il y a un peu de tout ça. Il y a ce qui est lié à Bob et sa personnalité, et puis il y a le contexte national et international. C'est quelqu'un qui était très respectueux de ses compatriotes, qui parlait vraiment à tout le monde et qui a laissé cette image d'une personne ouverte. Pardon. C'est quelqu'un qui, après le 11 septembre, par exemple, a encouragé le dialogue intercommunautaire et interreligieux. Qui expliquait que l'islam était mal comprise, que les radicaux l'avaient complètement kidnappé. Et c'est pas quelque chose à laquelle on s'attend d'un homme politique australien classique qui a peut-être pas cette vision globale des choses. Donc, à la fois homme du peuple, mais quelqu'un de très intelligent. Par ailleurs, il est moins abrupt, moins revêche que l'islam, était détesté par toute une partie de la droite. Ayant mené des réformes économiques profondes, nos successeurs de Bob Hawke, de gauche comme de droite, reconnaissent que ce sont des réformes qui étaient importantes. Et donc, si vous voulez, comme il s'est fait un peu moins d'ennemis de ce côté-là, de l'autre côté de la barrière, il a réussi à devenir cette personnalité un peu swag, un peu aimée, un peu charmante, d'une Australie un peu bon, enfin, qui vivait plutôt correctement, bien que rappeler quand il arrive au début en 83, c'est pas rose, et puis à la fin de son mandat, l'inflation repart. Mais effectivement, ce sont des années de transformation, d'ouverture, de multiculturalisme, des années d'activité aussi. C'est avant le bicentenaire de l'Australie, enfin, qu'il présidera du coup en 1988. Donc voilà, c'est une période riche, et puis elle a laissé cette image un peu, voilà, de bon vivant. Une personne qui pouvait représenter les Australiens à l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent, mais qui ne se prenait pas non plus trop au sérieux et qui savait rigoler.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Romain, pour toutes ces explications sur Bob Hawke. On se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode qui sera eh bien consacré à son successeur immédiat. Il n'a pas exercé le pouvoir aussi longtemps que Bob Hawke ou que d'autres d'ailleurs premiers ministres dont on a parlé, mais il a quand même laissé une empreinte très forte sur l'Australie. Donc, on se retrouvera très prochainement pour parler d'un autre travailliste, Paul Keating. Merci beaucoup, Romain. Et à très bientôt.
Merci. Au revoir, Grégory.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.